Bonsoir. Coupe du monde de football 2026. La République démocratique du Congo a été battue aujourd'hui matin au Mexique par la Colombie sur le score d'un but à zéro. Un match qui comptait pour la deuxième journée du groupe K dans cette compétition. Le jeu a été largement dominé par les Colombiens qui ont effectué plusieurs tirs cadrés mais se sont heurtés au mur défensif de la RDC, particulièrement à la vigilance du gardien Lionel Mpassi. Ce dernier a fait un match héroïque dans l'ensemble, poussant les deux équipes à aller au vestiaire sans marquer de but. À la reprise, les Léopards de la RDC se sont réveillés un peu, menant quelques attaques dangereuses dans le camp adverse, mais sans être réaliste. L'unique but de la rencontre a été finalement marqué à la 76e minute dans un cafouillage survenu dans la surface des réparations congolaises. Et c'est dans ces conditions que le joueur colombien Munoz a marqué ce but. Que pensez-vous du match entre les Léopards de la RDC et les Cafeteros de la Colombie? C'est le débat de Dialogue entre Congolais ce jour. Et pour en parler, nous serons ce soir avec Eddy Kankou, analyste sportif. Eddy Kankou, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à la radio Capi et bonsoir aux auditeurs disséminés à travers le pays.
Dans ce débat ce soir aussi, Herbert Chibanda, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs ainsi qu'à vous.
Herbert Chibanda, vous êtes sénateur de la RDC, président du club de football olympique de Mbujimayi, également chercheur en droit du sport. Et enfin, Sonny Médard Kazadi, président et manager du club de football école de foot de Kananga et FOCAM en sigle. Sonny Médard Kazadi, bonsoir.
Bonsoir Donat Madimba, bonsoir Herbert Chibanda, le sénateur, et Eddy Kankou.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission.
Envoyez vos réactions à tech@radiookapi.net.
Nous parlons donc ce soir de cette mauvaise nouvelle pour le football de la République démocratique du Congo. L'équipe nationale du pays en compétition depuis deux semaines à la Coupe du monde de football en Amérique a été battue ce matin par la Colombie 1-0 au Mexique. But marqué à la 76e minute de la partie sur un cafouillage dans la surface de la RDC. Une défaite qui qualifie la Colombie au deuxième tour mais condamne la RDC à gagner son dernier match de poule et espérer un miracle. Nous sommes réunis ce soir donc pour analyser tout cela, mais avant d'aller plus loin, revivons d'abord le film de ce match raconté par Jean Gandou et rendu ici par Alain Irung.
La RDC est passée à côté de son rendez-vous face à la Colombie. Dominée dans tous les compartiments du jeu, les Léopards ont subi pendant des longues minutes la pression offensive de leurs adversaires. Sans les interventions décisives du portier Lionel Mpassi, la défaite aurait pu être bien plus lourde pour son équipe. À force de reculer, les Congolais ont fini par céder. Les Colombiens ont trouvé la faille peu avant le dernier quart d'heure de la seconde période, concrétisant ainsi leur domination. Durant cette rencontre, la ligne offensive congolaise a été étroitement surveillée au point de laisser le gardien colombien passer une grande partie du match sans être véritablement inquiété. Le premier tir cadré des Léopards n'est intervenu que dans les arrêts de jeu. C'est d'ailleurs dans ces ultimes minutes que les Congolais ont tenté de se projeter timidement dans le camp adverse. Ce sursaut tardif n'a toutefois pas suffi à inverser la tendance. Les Colombiens ont conservé leur avantage jusqu'au coup de sifflet final. Pour certains analystes, la gestion du match par le sélectionneur national pourrait expliquer cette contre-performance. Au classement, la RDC occupe désormais la troisième place de son groupe avec un seul point. La Colombie, quant à elle, est déjà qualifiée avec 6 points, suivie du Portugal qui en compte 5. L'Ouzbékistan ferme la marche avec 0 point.
Eddy Kankou, analyste sportif, tout de suite, votre commentaire de ce deuxième match de la RDC en Coupe du Monde.
Bon, je pense que la RDC n'est pas passé à côté de ses matchs ou à côté de son match. Les dispositifs montés par l'entraîneur nous obligeaient à reculer. Donc, nous jouons avec un bloc bas, on laisse les jeux à l'équipe adverse et les attendre à la fin pour procéder au contre. On n'avait que deux attaquants, Bakambu et Wissa, et les autres, c'était 5 milieux de terrain et 3 défenseurs. Donc, nous avions, dans le schéma de l'entraîneur, c'était empêcher l'équipe colombienne à faire des initiatives au niveau du milieu de terrain et solidifier la défense, penser à un match nul. Et c'est ce qui s'y fait. Mais l'entraîneur colombien avait fait une bonne lecture de l'équipe congolaise en demandant à ses joueurs, notamment Diaz et Rodriguez, de ne pas attendre la surface de vérité, mais de frapper en dehors du surface de vérité. Et c'était la faiblesse de l'équipe, notamment du portier lors de la rencontre face à l'équipe de Danemark. Les dispositifs de l'entraîneur ont fonctionné en première période et en seconde période. Mais seulement après avoir joué 15-20 minutes de la seconde période, l'entraîneur n'a pas voulu prendre les risques. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, que c'est l'entraîneur de l'équipe nationale qui reste sur un schéma du début à la fin. Et il refuse de prendre les risques. Quand l'équipe colombienne avait donné toute la première période et la seconde, l'équipe était fatiguée, il devrait opérer des changements parce qu'il est resté défensif toute la partie. Et je crois qu'à la moitié de la quart d'heure de la seconde période, il devait montrer, selon moi, sortir Bakambu et monter Théo Bongo de milieu de terrain et Mbuku qui avait apporté du tonus. Et à un moment, il s'est resté sur quand il a monté Mbuku. Nous avons senti que l'équipe, sur le plan offensif, avait tenté quand même de titiller l'équipe
Nous ne vous arrêtons pas dans votre analyse, nous continuons effectivement d'y aller et vous pouvez à tout moment revenir sur la lancée de votre réflexion. Pourquoi selon vous, parce puisque vous le dites, le sélectionneur Sébastien Desabres choisit un schéma défensif alors qu'on va en Coupe du Monde, c'est-à-dire pour gagner les autres le plus possible, et pourquoi pas arriver en finale? Pourquoi un entraîneur qui veut atteindre un pareil objectif veut défendre et n'attaque pas, ne marque pas?
C'est prudent parce que nous jouons face à la sélection colombienne qui a fait participation à la Coupe du Monde.
Oui.
Et la RDC a fait sa deuxième participation.
Ce n'est pas seulement.
C'est une équipe qui n'a pas la cohésion comme l'équipe colombienne.
Mais c'est prudent. Et du coup, cette question-là. Cette question-là n'est pas que pour ce match. Hein. Je profite de ce match, mais on a vu ce schéma un peu en Coupe d'Afrique. On le voit, on l'a vu pour le premier match, et on le voit pour le deuxième match. Vous qui affirmez justement, et beaucoup de gens le disent, que Sébastien Desabres veut défendre et il n'a pas l'option d'attaquer. Comment expliquez-vous on veut un peu comprendre. Comment comprendre qu'un entraîneur qui veut aller loin, qui veut gagner les autres équipes, n'attaque pas? Et d'ailleurs, notre principal attaquant, nous n'aimons pas vraiment mettre la main sur ou l'accent sur des noms particuliers, mais il faut bien citer les joueurs qui ont joué. Bakambu, ça fait un bon bout de temps qu'il ne marque pas. Sébastien Desabres n'a pas d'autre choix, ne commence pas avec un autre attaquant pour essayer, et il fait entrer les autres à quelques minutes de la fin. Qu'est-ce qui explique globalement ce comportement et ce choix?
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour les autres compétitions, notamment la Coupe d'Afrique des Nations. Si la RDC était éliminée en Côte d'Ivoire, c'est parce que l'entraîneur avait respecté beaucoup l'équipe béninoise et on n'a pas pu prendre la tête du groupe. Mais pour cette Coupe du Monde, il fallait commencer d'abord avec une observation, avec un bloc bas. Maintenant, je vous rejoins et les autres Congolais qui pensent que l'entraîneur a trop de respect des adversaires, ils refusent de prendre les risques. Alors que quand vous jouez la première partie avec un bloc bas, l'équipe adverse a couru. En seconde période, vous jouez 15 minutes. Les autres minutes, il faut ouvrir. Malheureusement, je l'ai dit, l'entraîneur Sébastien Desabres est un entraîneur peureux qui a peur de prendre les risques. Il a peur de courir derrière le score. On peut commencer avec ce dispositif d'observation. Mais en seconde période, je prends le cas du match RDC-Colombie. En seconde période, il pouvait monter Théo Bongonda et Mbuku, ça ferait l'affaire. Au lieu de garder Bakambu, dans ce schéma tactique où le match était très engagé, très physique, Bakambu qui adore les profondeurs, il n'y avait personne pour le faire jouer, c'était un joueur de moins. Sur le plan offensif et sur le plan défensif, j'ai vu quand Banza est tenté, c'est Banza qui est venu dévier et conserver pendant que Bakambu ne le faisait pas. Donc, L'entraîneur a la responsabilité parce que l'entraîneur estime trop respecter l'adversaire, ne pas prendre les risques de monter un dispositif offensif capable de titiller aussi la défense de l'équipe adverse. Et ça, je crois que Desabre est dans l'école de Ibengue, est dans l'école de Diego Simeone, les gens qui adorent jouer derrière, mais malheureusement, il n'a pas les joueurs des mêmes profils capables de faire le box-to-box, aller en offensif et se replacer défensivement utilement pour permettre à l'équipe de jouer, malheureusement.
Et dit en coup, analyste sportif, on a eu l'impression que l'équipe de la RDC aussi avait un peu plus de pépins physiques lors de cette rencontre. Est-ce que c'est votre avis aussi ou pas du tout?
Non, ce n'est pas de pépins physiques. C'est l'adversaire en face était très physique et le nôtre. Il n'y a pas de pépins, mais nous sommes cognés devant un morceau très dur. Parce que la sélection colombienne, ce n'est pas comme la RDC qui a des joueurs qui sont arrivés. Les autres n'ont pas de temps de jeu, ils n'ont pas joué pendant 5 ans, 3 ans, 10 ans. Et cette sélection colombienne a des joueurs qui ont fait plus de sélections qui se connaissent parfaitement et qui jouent dans le club et qui occupent le premier rôle. Donc physiquement, nous nous sommes croisés devant une équipe qui nous a fait marcher et qui avait un niveau très élevé que nous. Et on n'avait pas de pépins.
Merci, on revient à vous, Edu Kankou, dans cette émission. Herbert Tshibanda, sénateur de la République démocratique du Congo, président du club de football olympique de Mbujima, également chercheur en droit du sport. Un peu la dernière question que j'ai posée à Edu Kankou, et vous en profiterez pour faire votre analyse globale de ce deuxième match de la République démocratique du Congo. On a eu l'impression, certains observateurs ont eu l'impression que les joueurs de la RDC avaient plusieurs types de difficultés, notamment individuellement, on a eu l'impression qu'ils n'étaient pas en forme, qu'ils avaient peut-être des soucis physiques, parce que on avait l'impression qu'ils n'arrivaient à ne rien faire de bon. Le résultat de ce match, c'est qu'on n'a pas marqué de but, on en a encaissé, on n'a pas pu revenir au score, mais on a eu aussi l'impression, et vous allez nous donner votre avis, que les joueurs de la RDC n'arrivaient ni à réceptionner le ballon, ni à le contrôler, ni à faire des passes, et encore moins à tirer pour être dangereux.
Alors, merci beaucoup, Donna. D'abord, c'est un plaisir pour moi de retrouver les auditeurs de Radio Okapi après vraiment beaucoup de temps. Ça me fait énormément plaisir. Surtout pour parler de ce match. Et j'avoue quand même que nous avons été tous touchés. Ben, c'est jusqu'à 3h pour le match en direct. Bon, et on a récolté le résultat. On ne peut plus décevoir. Je crois que je suis d'abord d'accord avec Eddy jusqu'à 90% par rapport à son analyse à cette rencontre. Mais je voudrais qu'on mette un peu plus en exergue par rapport au match d'hier la qualité de l'adversaire. Je sais que d'aucuns peuvent soutenir que le Portugal est aussi redoutable que la Colombie. Mais c'est deux profils différents. Et deuxièmement, la Colombie a eu l'avantage de nous étudier, d'étudier le comportement de la RDC par rapport au système de jeu choisi par l'entraîneur, par le sélectionneur, sur trois matchs, mais essentiellement sur deux. D'abord, notre match contre le Danemark, comme nous évoluions dans le système de 3-5-2. Et puis, je crois que c'était la première fois qu'il essaie de cristalliser ce système-là. Et il a appliqué contre le Portugal. Je crois qu'ils se sont servis de la vidéo, je crois que l'entraîneur de la Colombie l'avait dit, le sélectionneur. Ils nous ont très bien étudiés. Et la consigne qui était donnée, si vous le constatez bien, dès l'entame, nous avons essayé de menacer avec la frappe des dos. Et nous avons replié comme d'habitude. On a fait bloc bas, avec espoir de sortir proprement les ballons et faire des transitions rapides, ce qui n'a pas fonctionné malheureusement. Et s'ils ne sont pas arrivés à construire, à sortir proprement les ballons, ce n'est pas parce qu'il s'est posé un problème de condition physique. Moi je pense que c'est le problème qui nous a été posé par l'adversaire qui nous a contraints à cette difficulté-là. La preuve c'est que dans moins de 10 minutes, heureusement qu'il était dans son meilleur jour, le gardien a fait vraiment des arrêts, je dirais même spectaculaire, et même qui nous ont sauvés, ça il faut l'avouer.
Une dizaine d'arrêts pendant presque trois matchs.
Voilà. Donc, déjà, là, moi, je crois qu'il faut plus mettre en exergue la qualité de l'adversaire qui nous a étudié tactiquement, qui a étudié nos faiblesses. Et la grande faiblesse, c'est que quand nous nous prenons des dispositions pour avoir un bloc bas aussi solide que celui-là, nous laissons quelques fenêtres et ils ont eu l'opportunité de tirer de loin. Nous n'avons pas tiré des enseignements parce que contre le Danemark, rappelez-vous, nous avions encaissé dans ces conditions-là et ils ont fait focus sur cet aspect. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est un peu comme le dit un adage, tant que la cruche va à l'eau, qu'à la fin, elle se brisera. À force de braver un danger, on finit par succomber. Ce système-là, oui, d'accord, c'est un match. Jusque-là, on ne fait pas la honte, même si on a perdu sur ce score étriqué d'un but à zéro. Contre le Portugal, on a fait ces résultats-là. Mais l'objectif, c'est de faire quand même les meilleurs résultats. Et on ne va pas jouer de la même façon de bout en bout. On a déjà pris un but contre le Portugal. On a pris un but dans les conditions que nous connaissons. Il y a eu ce déclic-là, et bien, l'équipe s'est comportée autrement, on s'est projeté assez rapidement. Moi, je crois que, comme la machine commençait déjà à gripper, il appartenait à l'entraîneur de trouver une solution au problème posé par l'adversaire. Je vais pas essayer d'imiter Etikankou. Bon, je me pose toujours la question des joueurs. C'est vrai qu'on va nous interdire, comme d'habitude, d'analyser, de nous dire, bon, écoutez, c'est les sélectionneurs qui décident en dernier ressort. Autant de Congolais, autant d'avis et autant de sélectionneurs. Bon, on est quand même là pour analyser les choses. Sur le banc, il y a quand même une certaine profondeur. Un joueur comme Théo Bongonda, je ne suis pas là pour prêcher, je ne sais pas où ça s'appelle. Mais je me dis quand même que son profil pouvait nous aider à amener un peu plus de percussion, surtout à droite là, si pas à droite dans l'entrée-jeu. Ça pouvait nous permettre d'avoir un peu plus de percussion, parce que quand vous jouez contre une équipe comme la Colombie, avec ce profil-là, qui vient nous asphyxier dans notre camp, nous n'arrivons même pas à faire deux passes pour sortir proprement les ballons, eh bien, on continue à jouer de la même façon. Je crois qu'on ne peut s'attendre qu'au même résultat. Donc, il n'y avait plus rien en deuxième période, jusqu'à ce que Banza ait monté. Il a essayé de fixer l'axe de la défense et a un tout petit libéré les autres. Mais c'était fait de manière tardive. Et puis, le choix des autres joueurs, je crois que la grande difficulté, c'est celle-là. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé du match à venir, mais on ne va pas continuer à jouer de la même façon. Et je ne conseille pas de laisser le trou ou d'attaquer sans intelligence et se faire prendre en contre-attaque. Mais au moins, il fallait trouver une possibilité, ne fût-ce que d'inquiéter l'équipe adverse pour chercher à avoir un match nul. Mmh. Et bien, on n'a pas existé, franchement. On n'a pas existé. Donc, on a compris que Desabre lui-même, moi j'ai beaucoup de respect pour le travail qu'il a accompli, mais face à une situation comme celle-là, c'est là qu'on devait le voir. Chercher à trouver une solution plausible afin de contenir la difficulté que
qui se présente devant lui
nous a imposé. Moi, je crois que la difficulté, c'est à ce niveau-là. Et ce n'est pas forcément le problème de la condition physique de nos joueurs. Tactiquement, on était en difficulté. Et puis, les choix de joueurs remplaçants devaient se faire à temps et pour essayer d'échanger un peu du système et surtout essayer de remonter pour permettre à l'équipe d'avancer et de ne pas rester toujours aux abords de la surface de réparation.
Herbert Tshibanda, comme nous l'avons tous remarqué, Sébastien Desabre joue un peu de cette manière depuis qu'il est sélectionneur de la RDC, ou alors depuis au moins la dernière CAN, nous avons vu plus ou moins ce même comportement de notre équipe nationale. Même si il faut laisser le sélectionneur libre et responsable de ce choix, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent quand même l'approcher pour lui donner le ressenti de ce qui est vu en dehors du terrain? Est-ce que les joueurs qui connaissent bien leur métier et qui connaissent le coach, est-ce qu'ils sont, selon vous, contents de ce système? Est-ce qu'ils sont empêchés de lui proposer d'autres tactiques pendant le match où ils sont face à eux-mêmes? Ne peuvent-ils pas prendre leurs responsabilités pour dire, ben voilà, nous savons quand même jouer au foot, ce sont nos pieds, nos jambes, nos têtes, nous allons tirer 2, 3, 4, 5 fois et voir ce que ça va donner.
On n'a pas suffisamment d'éléments d'appréciation pour savoir ce qui se passe à l'intérieur, ce qui est l'ambiance. Vous savez, un système comme celui-là, il faut d'abord qu'il y ait une adhésion. D'abord des athlètes ainsi que des autres membres. L'équipe nationale est structurée, Desabre n'est pas seul, il a des adjoints. On se pose la question, est-ce qu'il les écoute? Même si c'est lui qui doit désigner en dernier ressort, c'est lui le patron, c'est lui le boss, sur le plan technique. Mais est-ce qu'il les écoute? Est-ce qu'il discute? Et même pour que le joueur adhère au projet, il doit expliquer et puis les écouter aussi. Parce que ce ne sont pas des moutons d'épanurge. Et il faut qu'ils soient d'accord, ok? Mais c'est lui qui impose, justement, mais c'est des grands gaillards qui ont quand même une certaine expérience et qui jouent quand même dans les grands clubs, même si la question de temps de jeu se pose de temps en temps. Mais ils ne viennent pas apprendre à jouer au football, c'est une sélection. Mais on se met d'accord sur sa philosophie, on se met d'accord sur le système de jeu. Et puis le système de jeu, il ne les définit pas pour tous les adversaires. On ne va pas jouer de la même façon contre l'Ouzbékistan, quand on va jouer contre l'Algérie, quand on va jouer contre le Sénégal. On ne va pas jouer de la même façon. Alors donc, à ce niveau-là, moi je crois qu'il doit coopérer, il doit décider en dernier ressort. Alors, est-ce qu'il écoute ses adjoints? S'il les écoute et que c'est leur avis à tous, c'est une bonne chose. Mais je crois qu'il y a des choses à redire quand même. Parce que, comme je l'ai dit, tant que la cruche va à l'eau, à la fin, elle se brisera. On ne peut pas faire 90 minutes, même si contre le Portugal, on s'en est vanté un peu. On a dit, bon d'accord, ils avaient la possession, mais on a fait match nul. Mais ça, c'était le Portugal. Hier, c'était, non, aujourd'hui plutôt, c'est
la Colombie.
C'est la Colombie, demain c'est l'Ouzbékistan. On ne va pas jouer de la même façon. Il faut regarder les profils. Et ils ont aussi des vidéos, ils travaillent dessus pour étudier les forces et les faiblesses de l'adversaire. C'est en fonction de cela qu'on détermine aussi les systèmes des jeux, les mieux indiqués, la forme de l'animation et même la résolution des problèmes pendant les matchs. Parce que pour une rencontre comme ça, il ne suffit pas de rester figé sur ce qui a été arrêté en amont. Il faut gérer le match. La gestion d'un match, c'est un élément primordial. Vous pouvez préparer l'équipe, mais si vous rencontrez des difficultés, c'est vous le patron, vous devez décider, vous devez prendre des décisions pour essayer de réformer certaines choses pour que l'équipe reprenne.
Merci.
On ne va pas jouer de la même façon de bout en bout, comme je l'ai dit,
merci,
espérer les meilleurs résultats. Là, c'est pas possible.
Merci. Merci Herbert Chibanda, restez avec nous dans ce débat. Sonny Médard Kazadi, président et manager du club de football, école de football de Kananga et FOCAM. En sigle, votre analyse du match de la RDC de ce jour. Allô, coach Sonny Médard, est-ce que vous pouvez activer votre micro et prendre la parole?
Merci, Dona Madimba. Merci également aux débatteurs Herbert Chibanda et Eddy Kanko qui ont brossé le profil convenable de ce match. Au fait, c'était un match difficile, très difficile pour les Léopards de la République démocratique du Congo et un match frustrant pour le peuple congolais. Les Léopards ont joué avec leurs moyens, mais ils étaient en face d'une équipe très physique, d'une équipe très rapide. Aujourd'hui, avec le football moderne, on a est vrai dans la vitesse d'exécution et la rapidité. C'est peut-être là où nous avons péché. On a senti dès l'entame que le joueur de la République démocratique du Congo avait quelques pépins physiques. Projeté et il tombe là-bas. Donc on a compris qu'on avait une petite difficulté. Ni Pété, le gardien Lionel Mpassi, c'est quand même 9 arrêts pour ce gardien, avec 4 arrêts dans les rectangles.
Coach Médard, Sonny Médard Kazadi, comment à ce niveau de la compétition, le niveau le plus ultime d'une carrière footballistique, comment on peut se présenter avec des athlètes qui peuvent se permettre d'avoir quelques pépins physiques seulement au deuxième match, par exemple? Est-ce que c'est, par exemple, l'altitude du Mexique qui est responsable ou il y a des failles, si oui, lesquelles?
Beaucoup de choses peuvent toujours entrer en compte. D'abord, on arrive que le lundi à Guadalajara et puis il fait chaud là-bas. C'est vrai. On peut aussi se poser des questions. Le rendement du match, du premier match contre le Portugal, n'a pas laissé quelques failles. Donc, si Mpassi n'était pas dans son grand jour, on serait passé près de la correctionnelle. La possession de l'équipe colombienne était à 66% et 34% pour la République démocratique du Congo. On sent déjà que ça n'allait pas. Et contrairement au match contre le Portugal, où le bloc était bas, mais on a eu quand même des interceptions au niveau de la médiane. Cette fois, contre la Colombie, on a senti qu'ils ont préparé ce match convenablement et ils étaient très rapides. On a quand même avec cette équipe-là des joueurs de rang mondial comme Luis Diaz, comme Daniel Munoz, l'auteur du but assassin pour la République démocratique du Congo. Donc, les Léopards ont utilisé leur force et ils ne pouvaient pas faire autrement. Moi, j'aurais estimé que le coach Sébastien de Sabre propose un dispositif de 4-3-3 et qu'il utilise un seul avant-centre au lieu d'en utiliser deux. Moi, j'aurais préféré qu'il utilise Wissa en pointe et qu'il ait sur le côté les deux ailiers rapides et percutants. Si on regarde le match qui nous a opposé au Chili en préparation, le Chili était choisi pour se comparer au profil de la Colombie. Si on regarde sur ce match, ce qui a manqué à Théo Bongonda, c'était seulement de scorer. Mais il a réussi à pénétrer dans la surface de réparation. Ce qui n'a pas été le cas hier. On a été bouffé au niveau du milieu de terrain, contrairement au match contre le Portugal, où Edo Kayembe avait fait 10 interceptions et Ngalayel Moukaou avait quand même réussi à faire 27 kilomètres. Alors que Moutoussami, ce jour-là, avait aussi réussi à faire des passes précises. Donc, on a tellement défendu bas et qu'on a permis aux Colombiens d'arriver tout près de notre poteau et inquiéter notre gardien. C'est ce que nous devons changer dans l'avenir pour éviter de tomber dans les travers.
Merci à vous, coach Médard Kazadi. Nous allons revenir tous à vous dans une deuxième prise de parole. Mais cette fois-ci, nous allons être confrontés aussi à l'avis de la population de la RDC, aux auditeurs de Radio Okapi qui sont nombreux à réagir. Merci de continuer à le faire sur toutes nos plateformes de Radio Okapi. Pour vous, Eddy Kankou, vous allez écouter le commentaire de cet auditeur de Lubumbashi. Ensuite, vous allez donner votre avis.
Bonsoir Radio de la Paix, Chris Théron, panélaniste sportif depuis la ville de Lubumbashi. Comme en préparation, des Sabres restent en difficulté tactique contre toutes les équipes américaines dont nous n'avons pas échappé aux réalités des petits détails. Quand on ne sait pas limiter les assauts offensifs des équipes adverses, il faut aussi beaucoup marquer de bits, a dit un jour Juan Cruyff. Et nous l'avions évoqué dès la sortie de la liste de 26 léopards sélectionné et ce n'est pas le moment d'en parler. À mon humble avis, le staff technique doit accepter leur choix tactique mauvais et la peur d'attaquer alors que derrière on est costaud. La Colombie, avec un jeu direct, une transition rapide et discipline tactique, a réussi à maîtriser les poulains de Desabre qui sont obligés de comprendre que pour se qualifier étape après étape, il faudrait attaquer et défendre en même temps.
Edu Kankou, cet auditeur, pour lui, il résume tout en conseillant d'attaquer et de défendre.
Mais il a été très clair au départ. Il a parlé des choix de l'entraîneur. Nous l'avions dit à l'époque, quand les sélectionneurs sortaient sa liste, que l'entraîneur part avec les mêmes difficultés et faiblesses que lors des dernières participations à la CAN et à la Coupe d'Afrique, et plutôt en Côte d'Ivoire et au Maroc. Vous avez une liste avec des défensifs que des offensifs. Et des offensifs que vous mettez sur le terrain, incapables de conserver et de faire des déviations. Donc, nous n'allons pas marquer. Et l'entraîneur compte plus sur des matchs nuls. Même en Coupe d'Afrique des Nations, contre l'Algérie, il pensait faire un match nul. Nous nous sommes qualifiés contre le Nigeria au tir au but. Il compte sur la qualité de Timothée Fayoulou, mais aussi des joueurs, des gens qui savent tirer le penalty. Contre le Cameroun, c'était un corner, grâce à Chancel, même on a marqué. il pensait aussi jouer Messi Roby. Donc, notre problème ici, c'est le système de l'entraîneur. Vous aviez posé une question au sénateur. Vous avez dit, est-ce que l'entraîneur est écouté? L'entraîneur doit être écouté par qui? Ce ne sont pas les joueurs qui doivent parler à l'entraîneur. Pas encore ses adjoints. L'adjoint, c'est qui? C'est Miayo. Miayo ne fera pas face à Sébastien Desabre. Et le système imposé par Desabre dans le Léopard, c'est lui qui contrôle tout. Et il met sa politique en place. Vous ne pouvez pas parler aux médias sans que Desabre vous briefe. Sans que Desabre vous dise, vous puisse dire ce que vous voulez dire. Si vous allez à l'encontre et vous mettez à côté. Alors que l'endroit idéal pour parler avec un entraîneur, c'est la direction technique nationale. C'est là où les techniciens parlent, les techniciens de la République et les sélections de l'équipe nationale. En rapport avec la question de l'auditeur, il n'y a plus rien à faire. Nous allons jouer l'Ouzbékistan avec le même problème. Parce que je ne vois pas de sabre, lui qui a peur de jouer les matchs, de commencer avec une équipe très offensive. Il va jouer toujours avec une équipe, avec un bloc bas, mais de grâce, il peut se mettre sur le terrain intérieur Mongonda avec un Moukaou. Et je pense que ça va faire l'affaire. Et on ne peut pas venir jouer de la même manière comme on fait face au Portugal et à la Colombie et jouer à l'Ouzbékistan de la même manière. Non. Et mais le même problème persiste. C'était déjà les choix de l'entraîneur. Quand il sélectionnait le joueur, il ne partait pas pour jouer. Il partait pour se défendre, parce qu'il sait qu'il y aura 8 équipes qui sont qualifiées comme meilleurs perdants. Et il sait jouer avec 3 points. Vous encaissez moins. Vous avez une solidité de offensive. Vous pouvez vous qualifier pour le prochain tour. Malheureusement, la Colombie nous a joué un sale jeu. Notre seule chance, c'est face à Ouzbékistan. Mais il faudra lâcher les chiens, comme on dit en football, pour tenter de voir ce que ça va donner.
Alors, nous reviendrons avec vous tout à l'heure pour clôturer cette émission et éventuellement pronostiquer pour le match dans 4 jours à peu près, je crois, le dimanche prochain, si nous ne sommes pas trompés des dates. Et dit Kankou Herbert Tshibanda, vous êtes sénateur de la RDC, président du club de football olympique de Mbujima, également chercheur en droit du sport. Pour vous, nous allons écouter cet auditeur de Kinshasa.
Junior Bompongo depuis la ville-province de Kinshasa. Je pense que le match était plein de pression. Les Léopards n'ont pas affiché le même niveau de performance que lors de leur première sortie. Il faut reconnaître que les Cafeteros et Colombiens se sont montrés supérieurs dans plusieurs compartiments du jeu, malgré quelques erreurs tactiques qui auraient pu être exploitées par nos pauvres. Après 2 journées, la RDC occupe la 9e place au classement des meilleurs 3e. Les calculs est désormais simple, battre l'Ouzbékistan lors de la dernière journée. Une victoire porterait les Léopards à 4 points et leur ouvrirait très probablement les portes des 16e de finale. Un match nul serait insuffisant dans la plupart des scénarios, tandis qu'une défaite signifierait l'élimination. La mission est donc claire pour nos Léopards, gagner et soigner la différence de but. Avec les talents, le courage et la détermination de nos Léopards, tout reste encore possible. Allez-y les Léopards.
Herbert Tshibanda, votre réaction?
Bon, je suis d'accord avec l'auditeur de tout à l'heure. Je crois qu'il a fait une analyse fondée pour ceux qui du match à venir, le prochain contre l'Ouzbékistan. Nous devons mettre des bouchées doubles. Je crois que pour continuer à garder nos chances pour la suite, nous devons gagner ce match-là. C'est important parce que après avoir fait match nul, on est passé par une défaite aujourd'hui, mais il faut absolument mettre le boucher double pour gagner le prochain match. Et il faut prendre les risques aussi. Je crois que Eddy n'a pas tellement tort. Mais une petite anecdote sur ce match-là. Ça, c'est hier, quand on suivait les matchs. Vous voyez, nous, c'était à 3h30 à Kinshasa. Eh bien, moi, je parlais, c'est pour parler de la condition physique du joueur. Hein. N'oublions pas, l'altitude a une incidence très négative sur le comportement physique de joueur. Ça, c'est aussi vrai. Parce que vous êtes revenu sur cette notion-là plus d'une fois. Les Colombiens, ils sont dans une zone, à part ceux qui voulaient un peu plus en Europe, ils sont aussi nombreux, c'est pas faux. Mais en restant chez eux, en s'acclimatant par rapport à l'altitude, ils ont eu quand même une petite avance sur la République démocratique du Congo. Et nous, on est arrivé la veille. Et puis, bon, on a joué comme dans les conditions que nous connaissons, donc physiquement. Et quand je parlais de ça, mon fils qui était avec moi m'a dit, papa, c'est aussi parce qu'il joue à 3 heures. Je lui ai dit que c'était un problème des horaires. Là, c'était pas à 3 heures. Donc, vous voyez que la condition physique, ça, on peut mettre. Mais ça ne justifie pas tout ça. Alors, je voudrais insister sur une chose par rapport au staff technique, pas contrairement, mais plutôt pour compléter et dire. Les sélectionneurs, comme tous les autres membres du staff technique, ont chacun ses attributions. En tout cas, ça doit être clair. Et c'est un domaine de collaboration, mais celui qui décide en dernier ressort, c'est le sélectionneur. Celui qui engage sa responsabilité en dernier ressort. Donc, cela ne veut pas dire qu'il n'a pas le devoir, je parle bien en termes de devoir, il n'a pas le devoir d'écouter les avis des autres. Les écouter, vous voyez, prenez l'exemple de Deschamps comme tous les autres sélectionneurs. Pendant que les matchs se jouent, ils consultent toujours leurs collaborateurs. Prenez Ancelotti, quand ça se complique, une fois le Real Madrid avait gagné, suite au concours du fils d'Ancelotti, qui est son fils, en même temps son adjoint. Donc je crois que si ce que Didier est vrai, le sélectionneur doit être humble. Il doit, à un certain moment, parce qu'il peut paniquer, comme quelquefois, il n'arrive pas à prendre ce courage de demain. Et sans le clouer au pilori, moi je crois que c'est la recommandation à lui faire. Il ne faut pas attendre les dégâts pour venir faire une évaluation par après. L'évaluation peut se faire ex ante. Et je pense aussi que c'est une bonne idée de savoir d'abord bien défendre avant d'attaquer. Ça veut dire, quand on perd le ballon, on se regroupe comment? C'est très important. Regardez l'erreur du Sénégal contre la France. Eh bien, ils se sont vus très beaux. Ils ont attaqué à un certain moment, en deuxième période, tellement qu'ils ont perdu le ballon, ils ont couru pendant un moment physiquement, ils étaient un peu esquintés, et la France en a profité. Ça veut dire que, sur le plan défensif, ils ont accusé une faille. C'est ce que redoute des sabres. Mais ce que je lui propose, moi, c'est quoi? C'est que dans la gestion du match, nous sommes tous revenus sur un joueur comme Bongonda. Il y a des profils qui peuvent aider. On a été en difficulté hier. Un joueur comme Bongonda, monté par exemple simultanément avec Banza, ça aurait changé la situation. Donc c'est cela, je ne le condamne pas. Et avec son système, et pour penser à bien défendre avant d'attaquer. Donc voilà ce que je peux dire à ce sujet. Et pour ce qui est de l'auditeur, je crois qu'il a raison. Nous devons mettre des bouchées doux. Gagner le prochain match pour espérer d'aller à l'étape suivante.
Herbert Tshibanda, préparez donc vos pronostics pour le troisième match, car c'est avec cet aspect que nous allons chuter pour l'émission de ce soir. Coach Sonny Médard Kazadi, vous êtes président et manager du club de football, école de football de Kananga. Pour vous, cet auditeur de Kolwezi.
Bonsoir Radio Okapi, c'est Adonis Oswald Kamingwa depuis Kolwezi, province du Lualaba. La défaite des Léopards de la République démocratique du Congo face aux Los Cafeteros de la Colombie est très loin d'être un hasard ou une malchance. C'est une réalité qui trouve sa justification dans le manque manifeste des performances personnelles et technicité collective des joueurs sur terrain. Pourtant, tous sont quasi professionnels internationaux. Dans la première et deuxième journée, la République démocratique du Congo a démontré un jeu manifestement inférieur à son adversaire. Si M. Desabre n'avait pas substitué tous les joueurs en défenseur et surseoir la technique offensive des jeux, les Léopards auraient pu encaisser des scores désagréables aux yeux du monde entier.
Coach Sonny Médard Kazadi, votre réaction?
Je salue Adonis et son analyse. Je pense qu'il nous a pratiquement rejoint. Nous avons déjà dit que l'équipe de la Colombie nous avait dominé dans la possession. Ils étaient supérieurs et ils ont amené leurs forces. Les Léopards ont utilisé leurs moyens et ça n'a pas suffi. En réalité, le coach de table utilise le système de plusieurs entraîneurs, surtout du système italien, qui veulent, à défaut de gagner le match, il ne peut pas le perdre. Alors, il évite d'encaisser rapidement le but et il préfère défendre et aller par le contre. Mais pour aller par les contre, il faut avoir des ailiers rapides et performants. Il faut des transitions dans les deux couloirs, être en mesure de sauter, par exemple, le milieu de terrain, pour aller se projeter très rapidement vers le camp adverse. Et c'est ça que nous avons manqué lors de cette rencontre. Nous avons réussi à défendre convenablement le jour du match contre le Portugal, mais comme l'a dit mes co-débatteurs, le coach de la Colombie avait étudié convenablement le système de la République démocratique du Congo. Ça n'a pas fonctionné comme on l'attendait. Bakambu et Wissa n'ont pas été au-dessus de leur moyenne du match contre le Portugal. Alors, il fallait faire une attaque placée et mettre des ailiers rapides capables de conserver le ballon et de passer par la vitesse. Notamment Bongonda, notamment Chipenga. Malheureusement, cela n'a pas été comme cela. Donc, pour rester en vie, nous devons être en mesure de jouer notre propre jeu. Nous avons encore notre destin entre les mains. Puisqu'il faut tout simplement gagner le match contre l'Ouzbékistan. Si on ne les gagne pas, on aura seulement 2 points et c'est synonyme de l'élimination. Mais l'Ouzbékistan, qui a vu aussi nos faiblesses, cherchera tout simplement à avoir une victoire pour dynamiter la République démocratique du Congo et s'y retrouver parmi les 8 meilleurs perdants. Donc, il nous appartient de nous décider. Donc, le staff technique doit prendre des décisions réelles pour le prochain match. Mettre des liens percutants et décider d'avoir un seul avant-centre. Et qui, les ailiers et les autres, vont jouer pour lui. À ce moment-là, on pourra avoir la possibilité de se projeter rapidement vers le camp adverse et peut-être réussir à violer la cage de l'équipe adverse.
Nous sommes donc en train de chuter dans notre magazine de ce soir. Eddy Kankou, analyste sportif, on voit le coach Sébastien Destabre évoluer dans la sélection de son 11 débutant. Et dans cette action, on voit l'ossature qui a composé les Léopards et qui nous ont amené les résultats qui nous ont conduits aujourd'hui à la Coupe du Monde défaillir. On voit des joueurs comme Elia Meshak, Maele, Nathaniel Mboukou, Banza ou encore Bongonda qui étaient des titulaires indiscutables dans de nombreux matchs, commencer sur le banc ou pas du tout. Selon vous, qu'est-ce qui s'est passé avec ces joueurs-là? Et bien sûr, la question sur le prochain match, quels sont les joueurs que, selon vous, l'entraîneur de Sabre doit choisir pour que la RDC gagne ce match et s'ouvre donc la possibilité d'une qualification?
Vous l'avez si bien dit, hein. Le joueur dont vous venez citer tout à l'heure, Meshak Elia, Mboukou et les autres, ce sont des joueurs purement offensifs. Ce ne sont pas des joueurs défensifs. Vous allez comprendre avec moi que pour ces deux matchs, le match Portugal et le match de la Colombie, l'entraîneur ne pouvait jouer qu'avec des joueurs défensifs à la première partie et à la seconde période, après avoir fait marcher ces joueurs-là, il pouvait monter maintenant des joueurs offensifs pour tenter aussi de titiller la défense de l'équipe adverse. Malheureusement, l'entraîneur ne l'a pas fait. Il a laissé des joueurs offensifs sur le banc ayant peur de courir derrière le score. Donc, c'est dans ses habitudes. Il y a un match où il a joué avec Mboukou au milieu et Meshak Elia comme ailier au Soudan, c'est en Tanzanie contre le Soudan. Vous avez vu que l'équipe était très offensive, on avait marqué. Et après ce match-là, il n'a pas pris le risque de jouer encore en offensif. Et maintenant, contre l'Ouzbékistan, je n'aimerais pas qu'il nous amène encore un système très défensif. Non. Et parce que les deux matchs, il a joué avec plusieurs joueurs à vocation et défensifs parce que les adversaires étaient coriaces, fallait les contenir. Mais je pense que pour l'autre match, le match contre, le dernier match contre l'Ouzbékistan, il doit utiliser le système qu'il a utilisé au Maroc face à l'équipe du Bénin où vous avez un Théo sur le terrain, vous avez un Moukaou sur le terrain et qui ne joue pas avec un système de 5 milieux de terrain. Il nous joue un système de 4-4-2 et je pense que ça sera très prolifique. Mais je pense que Bakambu peut aussi rester sur le banc parce que l'entrée de Banda elle nous a prouvé aussi la conservation parce qu'en football moderne, le premier défenseur, c'est l'avant-centre. L'avant-centre doit être à mesure de dévier le ballon, de conserver, de jouer à ligne D pour permettre au milieu de terrain de défense de souffler. Parce que si vous avez Bakambu qui n'attaque qu'à la profondeur alors que le match est très physique, il n'y a pas quelqu'un pour le faire de profondeur, c'est un joueur de au moins. Quand nous sommes en phase offensive, il est important, mais quand nous perdons la balle, il est c'est un joueur de moins, nous jouons neuf sur le terrain. Et que l'entraîneur évite la peur, que l'entraîneur lâche les seins et on a la possibilité de bien jouer et de titiller et de se qualifier au prochain tour.
Merci à vous, Eddy Kankou, pour cet avis. Herbert Tshibanda, sénateur de la République démocratique du Congo, président du club de football olympique de Mbujimayi, également chercheur en droit. Quel est votre 11 idéal en fonction de l'effectif dont la RDC dispose en ce moment pour gagner le troisième match, le match prochain contre l'Ouzbékistan et pourquoi?
Moi, je pense que l'entraîneur doit se dégager de sa phobie, hein, facilement. Quand on a quand même des joueurs de qualité, de l'autre côté, c'est vrai que contre la Colombie et le Portugal, c'est des formations qui nous étaient supérieures sur papier. Au classement FIFA, ça se dessine très bien, les écarts sont payants. Mais contre l'Ouzbékistan, je crois qu'il faut revenir un peu à son classique d'autrefois. Je propose qu'il fasse le 4-3-3, ça veut dire en défense. Il va se décider de faire tomber entre Kapwadi et comment il s'appelle encore Toisebe, entre un des deux. Mais moi, je pense que Kapwadi peut d'abord être sur les bancs. Il titularise Toisebe. Il met, comment il s'appelle encore, le joueur de l'ancien de Manchester. À droite, le Nova va venir. Et à gauche, il met notre tétu national, qu'on appelle. Voilà, Wan-Bissaka, justement. Et dans l'entrée-jeu, la médiane, là, qu'il mette trois, qu'il mette Moussoussani comme milieu récupérateur, milieu défensif, et qu'il mette, qu'il ne se fasse accompagner par Moukaou, ainsi que notre jeune joueur Sadik. Et à gauche, Wissa, Banza en pointe, et à droite, qu'il mette Théo Bongonda. Pourquoi j'insiste pour Théo Bongonda? Théo Bongonda est capable, il est utile offensivement et défensivement. Il défend généralement bien. Et quand il porte le ballon, il a une force de pénétration. Il peut dynamiter la défense de l'équipe adverse. Donc je crois que c'est cela, qu'il sorte un peu de sa torpeur, qu'il nous aligne cette équipe-là, peut-être avec quelques ajustements, ça c'est ma proposition, et qui reste peut-être perfectible. Mais je crois que ce faisant, on peut continuer à avoir des destins entre nos mains.
Herbert Tshibanda, un mot un peu sur le cas Mayele. C'est quand même sans aucune contestation, 4 années de suite, voire peut-être 3, le meilleur buteur en activité dans les compétitions africaines, dans les clubs africains. Donc c'est quelqu'un qui s'est marqué des buts. Il n'est pas très loin des buteurs de la République démocratique du Congo et a aidé plusieurs fois la RDC à retourner les matchs grâce à ses réalisations. Qu'est-ce qui fait que, même en cas de difficulté, on ne le met jamais suffisamment de temps pour essayer de retrouver ses marques sur le terrain? Parfois, on ne l'essaye même pas en entrée de match. Qu'est-ce qui se passe? Je sais que vous savez.
Bon, je crois que c'est un problème de confiance par rapport à la perception de l'entraîneur lui-même. Alors que c'est un joueur qui a aussi une qualité, même si vers la fin ici, les résultats ne plaidaient pas forcément en sa faveur. Mais en club, il a quand même fait des preuves. Et s'il faut utiliser Mayele, parce que ça fait deux profils différents avec Banza. Moi, je peux proposer cette fois-là. Au lieu du 4-3-3, il peut y aller alors en 4-4-2. À ce moment-là, il a Banza et Maele en pointe. Et à gauche, Wissa essaie de récupérer, de revenir un peu au milieu, mais il occupe le couloir gauche. De l'autre côté, Bongonda. Et puis, avec deux récupérateurs et cette défense-là, je crois qu'on sera compact, même en cas de perte du ballon, et on aura la facilité de se projeter très rapidement vers l'avant et puis chercher à inquiéter l'équipe adverse. Donc, Kalala, c'est aussi un autre profil. C'est comme ça que j'ai dit, c'est un problème par rapport à l'utilisation des ressources humaines disponibles. C'est à l'entraîneur de faire ce choix et de savoir ce qu'il veut. On ne doit pas venir toujours avec l'idée de viser un match nul alors que c'est des matchs couperets comme celui que nous allons jouer le tout prochain.
Merci Herbert Tchibanda. Sonny Médard Kazadi, président et manager du club de football, école de football de Kananga et FOCAM en sigle. Coach, vous avez plébiscité le système 4-3-3, si je vous ai bien suivi dans vos commentaires précédents, comme celui que vous favorisez le plus pour donner notre visage beaucoup plus séduisant et beaucoup plus conquérant de la République démocratique du Congo. Mais maintenant, dans les faits, pour ceux qui ne connaissent pas trop les réalités techniques de 4-3, 5-3, 8-2-2, etc., en termes de joueurs, quel serait votre 11 de victoire pour le dernier match de la RDC et pour quelles raisons votre choix?
Je vais juste de donner les joueurs, les noms des joueurs. Si moi je donnais le nom d'Edo Kayembe, les gens diront que c'est mon joueur. Si Herbert donne le joueur, le nom de Fiston Kalala Maele, les gens diront aussi ce qu'ils savent, diront aussi que c'est son joueur. Il est venu de son club. Bon, donc pour moi, c'est d'avoir d'avoir une équipe en 4-3-3. Mmh. En 4-3-3, capable d'aller en 4-3-3 en phase offensive, et lorsqu'on doit défendre ou on a filé, on se transforme en 5-3-2. À ce moment-là,
autrement dit, on attaque comment, on récupère comment, on défend comment.
C'est-à-dire, lorsqu'on va attaquer, on a trois attaquants, deux ailiers percutants, l'un à gauche, l'autre à droite, et un seul avant-centre en pointe. On a besoin d'avoir un avant-centre qui pèse sur la défense adverse. C'est-à-dire, il oblige les défenseurs à ne pas monter. Si on a oui ça, il pèse sur la défense adverse. Edi Kankou a répété plusieurs fois. Bakambu n'a qu'une seule qualité. C'est un joueur de profondeur. Or, le système qu'il met en place ne lui permet pas de réussir cette profondeur. Et lorsqu'il a des ballons en profondeur, ce dernier temps, il ne les a pas réussi. C'est ainsi que moi, je propose qu'on ait à côté, du côté gauche, le petit Tipenga ou Meshak Elia, et du côté droit, Théo Bongonda, et qu'on place Wita en pointe. Si Bongonda n'arrive pas à répondre ou est fatigué, à ce moment-là, il peut changer pour remettre Banga. Et à ce moment-là, Wita doit passer sur le côté gauche, et le petit Tipenga peut passer sur le côté droit, ou c'est Meshak Elia. Et à ce moment-là, donc, quand on attaque, on est en 4-3-3, et quand on défend, c'est-à-dire si nous sommes attaqués, rapidement, les deux ailiers redescendent très rapidement, et ils sont les premiers défenseurs, et tous les milieux de terrain, les trois milieux de terrain, font le deuxième bloc, le deuxième rideau, et les défenseurs vont faire le troisième rideau. Et on doit faire un pressing haut pour éviter que le gardien soit surpris par des frappes lointaines. J'ai vu que l'équipe d'Ouzbékistan avait tenté des frappes contre le Portugal et même contre la Colombie, ou sans même la barre transversale.
Merci
donc, nous devons être trop prudents pour réussir à les emballer et à les faire douter. Il suffit au coach lui-même de faire ses choix. Mbuku est rapide, Mbuku est un peu percutant. La même chose pour Bongonda.
La même chose pour le petit Chipenga, ou Meshak Elia, qui quand même physiquement n'a pas trop de pépins. Je pense que la RDC peut réussir à gagner ce match-là, ne fût-ce que par un petit but ou un 2-1.
Bonne chance donc au Léopard de la République démocratique du Congo. Merci à vous trois, Sonny Médard Kazadi, président et manager du club du football, l'école de foot de Kananga, Herbert Tshibanda, sénateur de la RDC, président du club de foot olympique de Mbujimayi, également chercheur en droit, et enfin Eddy Kankou, analyste sportif, pour votre participation à cette émission. Merci à Sylvain Baogwere, Benjamin Mudumbi et Guy Maté qui m'ont aidé à produire cette émission. L'émission Dialogue entre Congolais de ce soir se clôture ici. Dona Madimba, c'est moi à la présentation. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.